Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. D'abord, je suis content parce que c'est seulement la deuxième fois que je vois ce film et j'ai encore appris, peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, je trouve qu'il est vraiment extrêmement pédagogique. Enfin, il est vraiment chouette. Et pas seulement parce qu'on me voit dedans. Il y a un truc que je développe, c'est dommage, parce qu'à l'époque, c'était sur la table, depuis, c'est quelque chose qui est parti. C'est l'hypothèse d'un prêt, une avance remboursable. Bon, ça, c'est dans les choux. Mais justement, donc avec Julien, on s'était dit que moi, je vais développer un tout petit peu l'aspect comment c'est financé, et les chiffres sur les coûts, c'était plus Julien. Juste dans l'actu récente, vous avez peut-être vu, il y a 3 semaines, il y a eu un sommet mondial du nucléaire civil à Paris, et donc Emmanuel Macron a inauguré ce sommet en grande pompe. Alors, l'enjeu principal, c'était le financement, c'est-à-dire obliger des acteurs publics et privés à mettre la main à la poche et garantir les investissements. Et en vérité, c'est un triple aveu. Le premier, eh ben, c'est que ça coûte un bras, on l'a vu. Le deuxième, c'est extrêmement risqué sur le plan industriel. Et le troisième, c'est que personne ne veut y risquer ses économies. Et je ne dirais pas que c'est un échec, mais que ça n'a pas marché, comme dirait l'autre, puisque 2 jours après ce sommet mondial, Emmanuel Macron, à la sortie du Conseil de politique nucléaire, nous dit « Bon, finalement, on va taper dans le livret A, c'est-à-dire l'épargne des Français qui est censée financer le logement social. » Et donc, dans le film, je dis « C'est le consommateur et le contribuable. » Bon, y a aussi l'épargnant qui va passer à la caisse, finalement. Juste développer un tout petit point. Donc, alors d'abord, il y a la phase construction, donc en gros les 100 milliards, là. Et puis après, il y a la phase fonctionnement. Je ne sais plus si c'est développé dans le film, mais en fait, une fois que les 6 EPR2, si jamais un jour on arrivait à les faire fonctionner, ils entraient en fonction, EDF a négocié avec l'État un mécanisme qu'on appelle CFD, un contrat pour différence, à 100 euros du mégawattheure, c'est-à-dire, de toute façon, EDF va vendre son électricité sur les marchés, et si elle la vend en dessous des 100 euros, si elle la vend 90 euros, par exemple, du mégawattheure, eh bien, il faut que l'État compense la différence, et si elle vend au-dessus, à 110 euros du mégawattheure, admettons, eh bien, là, c'est EDF qui rend la différence à l'État. Mais aujourd'hui, les prix de l'électricité sur les marchés, ils sont à 60 euros. Vous voyez la différence entre 60 et 40, ça veut dire que chaque année, l'État, vous, les contribuables, eh bien, vous allez filer 40 euros du mégawattheure à EDF, sachant que ça ne va même pas suffire, puisque le CFD il est conclu pour 100 euros du mégawattheure, et on a vu qu'en fait, ça va coûter 120, 150, on ne sait pas, on s'en fiche, EDF, ils disent « Non, mais on ne peut pas compter comme ça, c'est compliqué. Bon, » bref. Donc ça, c'est la partie après, une fois que ça fonctionne. Et sur la partie chantier, donc il y a... en fait, l'État dit... on va mettre la main à la poche, l'État va mettre la main à la poche pour, jusqu'ici on disait à peu près 55% des investissements, le jour où il a annoncé le livret, il a dit bon on va monter à 60%, et le reste c'est EDF. Et EDF c'est sur votre facture, et c'est sur votre facture à cause d'un nouveau mécanisme qui est entré en vigueur au 1er janvier, qui s'appelle le versement nucléaire universel, je vous la fais courte, mais en gros c'est à travers vos factures, c'est pensé comme ça, EDF doit engranger des bénéfices sur vos factures d'électricité. Donc l'État a prévu un mécanisme où on laisse monter vos factures jusqu'à un certain niveau avant de capter les surprofits nucléaires d'EDF, ce qui permet à EDF donc, d'engranger des bénéfices et de les mettre dans le prolongement du parc existant, dans l'épuration de sa dette et dans le nouveau nucléaire. Bon, alors là aussi, pas de bol, ça marche toujours pas, puisque aujourd'hui, les coûts du nucléaire, c'est dit dans le film, c'est à peu près 60 euros du mégawattheure, mais sur les marchés, on est un peu en dessous de 60, en vérité, on est plutôt à 55. Donc la situation, c'est le mécanisme que je vous ai décrit, il est très mauvais pour le consommateur si les prix sur les marchés augmentent, parce qu'en fait, votre protection, elle est à peu près nulle, mais il est très mauvais aussi pour EDF, puisqu'aujourd'hui, EDF vaut quasiment son électricité à perte, donc n'engrange pas les bénéfices pour investir dans les nouveaux réacteurs et même dans la prolongation du parc. Tout ça pour vous dire qu'en vrai, c'est mal barré dans l'histoire. Voilà, je suis peut-être un peu plus long pour démarrer.
Merci. Merci au groupe d'avoir organisé ce débat, parce que je pense que avant c'est une chose, le financement et la réalisation d'un documentaire sur les coûts qui peut paraître un peu aride et qui nécessite de pouvoir rentrer dans les détails. Et c'est une autre de pouvoir le diffuser, d'avoir un débat. Et je pense que s'il y a un sujet sur lequel, et on le voit aussi à travers le documentaire, il n'y a pas de débat démocratique, pas sur l'aspect financier, pas sur l'aspect de l'efficacité du programme qui est lancé. Et on a l'impression d'être vraiment dans une fuite en avant, et une fuite en avant qui est également financière, puisque en tant qu'écologiste, on a tout un tas d'autres arguments à opposer au nucléaire. Mais on fait face à une espèce de mur qui a été érigé à nouveau en 2022. C'est vrai qu'en 2012, quand il y a l'accord entre les socialistes et les écologistes avec François Hollande, qu'on a un accord pour fermer un réacteur, qu'on a ensuite Fukushima par-dessus ça, on a l'impression que l'Allemagne sort du nucléaire, on a l'impression qu'on est et que les énergies renouvelables, on voit très bien le coût de production des énergies renouvelables qui chute de manière vertigineuse, qui aujourd'hui, et les producteurs d'énergie renouvelable nous disent, deviennent complètement matures et encore plus compétitives grâce à la question des batteries et du stockage, qui permet sur la journée en réalité de capter l'énergie quand elle est produite et de pouvoir la répercuter quand on en a besoin. Et en fait, on voit donc dans ce mouvement-là, et on voit aujourd'hui en France une fermeture totale du débat public, alors que on avait l'impression qu'on allait quand même vers du bon sens, c'est-à-dire une énergie qui n'avait pas les inconvénients des déchets, qui on n'avait pas besoin de faire un pari technologique sur quelque chose dont on n'était pas sûr que ça allait fonctionner, qui est un gouffre financier. Ça, ces éléments-là, on les a grâce au rapport qu'a fait Maxime notamment, et ce travail parlementaire qui a été fait. Mais là aussi, c'est compliqué à l'Assemblée, parce qu'on n'est pas beaucoup à douter du nucléaire. Et on est abreuvé, matin, midi et soir, de lobbies qui nous envoient des fiches avec des choses absolument fausses. Mais comme c'est technique, et que bah, le nucléaire, en fait, c'est plutôt bien, enfin, on peut avoir un aperçu plutôt positif, et que quand on est en période de désarroi, où on perd nos repères après le Covid, après la crise énergétique qu'on a vécue en 2022, mais qui est aussi due au nucléaire, paradoxalement, et bien en fait ce repli sur soi, on le voit très fortement s'opérer. Et ce qui nous frappe particulièrement, c'est vraiment le deux poids, deux mesures, et dans le monde dans lequel on vit, avec le populisme qui prend de plus en plus de place, il y a aussi une réflexion à mener de comment on contraint, c'est-à-dire que le Rassemblement national qui brandit les 300 milliards qui ont été démontés plein de fois sur le coût supposé des énergies renouvelables, en fait, il n'y a pas de... On a beau le contrer, on a beau avoir des études qui prouvent le contraire, on a beau avoir des documentaires qui sont produits, on n'a pas, en tout cas dans le grand public, pas ce fait que les énergies renouvelables coûtent de l'argent public. C'est quand même un énorme paradoxe quand on regarde la réalité des chiffres par rapport au nucléaire, par rapport à l'efficacité énergétique et la sobriété qui sont évoquées là aussi.
Peut-être des questions ?
Oui.
S'il y a des questions de la salle ? Je sais pas si c'est bon, je suis là.
Je sais pas si...
Il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou physicien pour poser une question sur le nucléaire. Moi, je dis toujours, il suffit de savoir lire un rapport et de maîtriser 2-3 ordres de grandeur. Bon, alors vous avez compris, dans le nucléaire, c'est la centaine de milliards d'euros, et quand on parle des déchets, c'est les centaines de millions d'années. Mais sinon... Le billet, l'année vieux. Non, moi non plus, je ne maîtrise pas les ordres de grandeur.
Moi, d'après ce que vous dites, en fait... Il apparaît que c'est finalement un gros problème de démocratie.
Ah oui.
Et... En fait, c'est peut-être plus à ce niveau-là. Moi, c'est la question que je me pose, quoi. Puisque j'avais entendu un propos au sujet de la Convention citoyenne où la personne qui parlait, je ne me souviens plus de laquelle, mais disait là aussi que. La raison principale pour laquelle cette convention citoyenne n'avait pas abouti, c'était aussi une question de démocratie, d'entente. Voilà. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Au fond des choses, voilà, moi, ce qui m'apparaît, c'est que les gens qui sont à la tête de l'État, là, et Macron, voilà, pour ne pas le nommer, c'est scandaleux, moi ça me révulse, un vrai luxe de voir ça. Hein. Et voilà. Et plus qu'un problème écologique ou d'argent, il me semble que c'est un problème de démocratie. C'est quand même terrible, quoi. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Évidemment. Ouais, alors, deux petits éléments de réponse. La plupart des décisions qui sont prises dans le domaine nucléaire, depuis que c'est Macron, par exemple celle sur le Libra, c'est annoncé à la sortie du Conseil de politique nucléaire. C'est une réunion à huis clos qui est présidée par le chef de l'État, où il y a le chef de l'État-major, enfin les ministres qui sont concernés par les questions d'énergie industrielle, militaire. Vous ne connaissez pas l'ordre du jour, enfin si vaguement l'ordre du jour à l'avance, ça fuit dans la presse, mais le compte-rendu est extrêmement succinct, et les parlementaires que nous sommes, évidemment, sont pas invités à donner leur avis là-dessus. Pour la petite histoire, le Conseil de politique nucléaire, c'est un truc qui a été inventé par Nicolas Sarkozy en 2008, à l'époque où il voulait vendre un réacteur à Kadhafi, et que Anno Verjon, PDG de Areva, lui avait dit « je ne suis pas sûr que ce soit une super idée ». Donc voilà, donc on a inventé un truc à huis clos pour prendre ce genre de décision. Et juste le deuxième élément, pas plus tard que cette semaine, on a auditionné en commission Roland Lescure et donc le ministre de l'économie, Maud Brejon, qui est en charge de l'énergie. Et justement, j'aurais posé la question, je leur dis « mais RTE, qui est gestionnaire du réseau de transport, doit rendre une révision de ses, je ne sais pas si vous connaissez les scénarios qu'il avait produits en 2021, qui s'appellent les futurs énergétiques 2050. Il y avait 6 scénarios de production d'électricité à l'horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et sur ces 6 scénarios, d'ailleurs, il y en avait 3 dans lesquels il y avait des nouveaux nucléaires, mais il y en avait 3 dans lesquels il n'y avait pas de nouveaux nucléaires. Donc la preuve que c'est possible. Et donc il y a une révision qui doit être faite et qui doit être publié en octobre de cette année, précisément pour alimenter la campagne présidentielle. Deuxième élément, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vient d'être publiée par décret sans la loi de laquelle elle aurait dû découler, c'est une espèce de 49.3, évidemment, elle prévoit une clause de revoyure dans un an, avec en fait l'idée que dans un an, peut-être qu'on freinera encore plus sur les énergies renouvelables. Donc moi, je demande à Lescure, je lui dis, fort de ces éléments-là, j'imagine que la fameuse décision finale d'investissement dans les 6 EPR2, qui est censée être prise à la fin d'année 2026, vous allez nous annoncer ce soir qu'elle est reportée après la présidentielle. Parce que ça engage quand même le pays jusqu'à la fin du siècle, cette histoire, avec des sommes qui sont considérables. Et là, ils sont reportés. Mais voyons, sauf erreur de ma part, le discours de Belfort, c'est février 2022, l'élection présidentielle a lieu dans la foulée, les Français ont validé, donc ils vont avoir ce qu'ils ont mérité. Voilà. Donc c'est ça l'état de la démocratie en France sur la question nucléaire.
Ce qui est malheureux, c'est qu'on dit la question énergétique sera tranchée par l'élection présidentielle. Donc l'élection présidentielle aura une répercussion majeure sur le modèle énergétique français et donc les investissements qui y sont liés. Mais le paradoxe, c'est que l'énergie, le débat autour de l'énergie, ne va jouer aucun rôle dans l'élection présidentielle. C'est pas là-dessus que les Français vont se déterminer, et ça sera pas l'enjeu majeur dans le vote qui sera prononcé. Et oui, il y a un vrai sujet démocratique. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans le mandat qu'on a vécu ensemble, on a été aussi ensemble dans la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France, une commission d'enquête demandée par les Républicains pour dénoncer l'accord entre les Verts et le PS qui serait à l'origine de toutes les défaillances que vous avez vues en cascade, parce qu'on sait bien, les Verts, ils ont un poids prépondérant en France, et donc c'est eux qui ont réussi à détruire une filière et faire en sorte qu'on ne soit plus capable de maîtriser le nucléaire. Et donc c'était ça l'objet de cette commission d'enquête. Par contre, on a auditionné l'ensemble de la filière du nucléaire. On n'a rien fait d'autre. Et ce qui était frappant, c'était la légèreté, en tout cas moi, c'était vraiment la légèreté avec laquelle ils sont sous serment, les différents responsables répondaient. Notamment Proglio, donc à la tête d'EDF au moment du chantier sur Flamanville, qui en gros dit « on a annoncé une somme, ils m'ont à peu près dit comme ça, ils m'ont dit la date d'ouverture, ça doit être ça, donc je prends une petite marge de sécurité ». C'est basé sur rien. C'est basé sur rien. Les avenants, il dit, mon copain Martin, quand même, au bout d'un moment, les surcoûts, il le dit comme ça devant la commission d'enquête. Donc on voit là qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui ont beaucoup trop de pouvoir, qui s'en fichent bien, et je pense que le documentaire le démontre aussi. Et donc la question de démocratie, elle est essentielle sur tous les sujets, mais on voit bien aussi que sur l'énergie, et plus on travaille sur l'énergie, le nucléaire va de pair, et d'ailleurs c'est pas un hasard, si aujourd'hui dans le monde, il est plus développé dans des pays dictatoriaux, et on voit qu'il est utilisé. Par exemple, la Russie a utilisé l'énergie de manière générale pour étendre sa zone d'influence et son emprise. Et Rosatom est un outil tentaculaire au même titre que, et moins visible paradoxalement, que les produits pétroliers. Et nous, on a pu poser notamment à Agnès Pannier-Runacher la question quand Greenpeace a révélé la livraison d'uranium de Russie. Et en réalité, au début, elle ne dit rien. Elle essaye de répondre. On insiste. Elle finit par dire « Dénoncer le contrat avec Rosatom serait plus coûteux pour la France que de maintenir en l'état. Mm-hmm. » C'est ça qu'elle finit par nous répondre, ce qui est la réalité. Et en face, vous avez aussi M. Proglio, qui, lui, est payé, reçoit toujours des jetons de présence pour siéger au conseil d'administration de Rosatom, pour vendre le savoir-faire français. Et donc, on voit bien que les questions de démocratie, il n'en est pas fait état, et tout se fait en catimini. Jamais, à part sur le projet de loi sur l'accélération du nucléaire, mais c'était pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune contrainte, qu'on peut balayer le droit environnemental, on le déclare d'intérêt public majeur, et on peut même construire l'ensemble d'un réacteur, les routes, l'approvisionnement, les réseaux, etc., avant de le charger en combustible, avant de savoir si, en fait, on avait le droit ou c'était pertinent de le faire. Donc on a vraiment fait, pour qu'on soit devant le fait accompli, qu'une fois que tous les investissements aient été réalisés, voilà. Et puis après, il y a une deuxième chose que nous, on a vécu comme un combat majeur, c'était la fusion de l'ASN et de l'IRSN, on le voit bien, et je trouve qu'on le voit là aussi, au-delà des coûts sur le prolongement du parc qui sont réels, on fait comme si prolonger le parc, en fait, c'était déjà amorti, qu'il n'y avait plus de coûts qui étaient inhérents. On a affaibli de manière assez dramatique nos instances de sûreté sur le nucléaire, même si on les augmente paradoxalement sur le nouveau par rapport aux risques inhérents, et on ne pourra jamais protéger une centrale nucléaire d'un conflit armé. Ça fait de notre pays un endroit vulnérable. En fait, ce qui est dramatique dans la démocratie, c'est-à-dire que nous, comme on l'a vécu, c'était au moment du débat des retraites en plus, ça couronnait. C'était dans le projet de loi d'accélération du nucléaire. On a d'un coup cet amendement du gouvernement pour complètement chambouler notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire. On arrive à le battre de justesse et en fait, ils reviennent à la charge avec un projet de loi. On le perd à une voix dans l'hémicycle en première lecture, mais du coup après c'est balayé parce que le RN a changé mais donc à quoi se joue la sûreté nucléaire? Et les plus anciens, enfin moi je, en tout cas je sais qu'on dialogue avec notamment Bernard Laponche qui est quand même une figure sur le nucléaire. Sur le nouveau nucléaire, il dit ça va jamais se faire. En fait, on ne va pas avoir les sous, on n'a pas la technologie, et ce n'est pas ça qui m'inquiète. Par contre, avec la mise à mal de notre système de gouvernance de sûreté, c'est la prolongation de nos centrales qui, pour lui en tout cas, formule le plus gros risque, et c'est ce qu'on a ressenti, c'est pour ça qu'on s'est battu comme le chien, mais qu'on n'a pas gagné.
Il y a une partie de la question que je voulais poser, que je voulais dire. Oui, vous avez donné la réponse. Après, il y a aussi, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on se lance dans quelque chose sans connaître, en 2100, l'eau, parce qu'on voit bien que les glaciers en Suisse fondent, donc le Rhône va être affecté, et il y a quelques réacteurs sur la vallée du Rhône. Donc, c'est quand même c'est une fuite en avant, en toujours, bien entendu, c'est un peu, là, c'est, on n'est pas trop sur de l'aspect financier, mais on contribue à quand même pénaliser les générations futures, parce que moi, à titre personnel, j'ai 72 ans, donc 2100, je ne serai certainement plus là. Mais là, c'est ça la problématique. On se lance dans une filière sans mesurer les conséquences, sans se projeter. 2100, entre 2070 et 2100, qu'est-ce qu'on ça va donner? Est-ce qu'on pourra toujours faire fonctionner les réacteurs? Déjà parce que l'uranium, même si on entend que c'est décarboné et tout, c'est quand même une énergie fossile. C'est dans des pays, pour la plupart, qui sont aussi où il y a des dictatures. Donc c'est quand même très, très un peu dangereux de se lancer dans une filière où on maîtrise pas tout. Voilà.
Sur l'aspect changement climatique et sur l'eau, alors d'abord, je réponds sur l'augmentation du niveau des mers, parce qu'en fait, donc, vous savez, il y a des centrales qui sont en bord de mer, il y en a d'autres qui sont en bord de fleuve. En bord de mer, le risque d'ici la fin du siècle, c'est la montée des eaux et l'addition de plusieurs phénomènes qui arriveraient en même temps. Donc si vous avez montée des eaux structurelles, grandes marées et tempêtes, bah, effectivement, ce ne sera peut-être pas la même chose qu'un raz-de-marée au Japon, mais ça risque d'y ressembler. Greenpeace a montré que Gravelines pouvait avoir les pieds dans l'eau complètement avant la fin du siècle. Et d'ailleurs, c'est pris en compte par EDF, qui a prévu, pour ces deux nouveaux réacteurs qui doivent être construits là-bas, de mettre du béton sur 11 mètres de haut. Sauf que Gravelines s'est construit sur un polder, parce qu'avant, ce n'était pas de la terre, c'était des marais. Et l'ASNR, Autorité de Sûreté Nucléaire, donc son nouveau nom, et de Radioprotection, a expliqué qu'il n'y a aucun chantier dans le monde qui pèse aussi lourd et qu'on n'est pas certain que ces 11 mètres de béton, ils ne vont pas s'enfoncer en fait, dans la terre d'ici la fin du siècle. Donc ça, c'est un premier exemple. Moi, je le cite tout le temps maintenant parce qu'il est abracadabrantesque. L'autre, c'est sur les cours, un sujet qui n'est pas encore beaucoup traité, petit jeu de mots, c'est pour les centrales en bord de fleuve. Il y a le syndicat des eaux de la Vienne qui a rendu un avis défavorable à EDF, parce qu'en fait, quand vous avez l'été en période de canicule, une diminution du débit et une augmentation de la température, l'eau, vous savez qu'elle est contaminée au tritium et d'autres trucs des centrales nucléaires qui est rejetée dans les fleuves, le mode de traitement, il doit être modifié. Je ne rentre pas dans les détails que je ne maîtrise pas moi-même, mais sur le plan chimique, on ne peut plus utiliser le même procédé. Sauf que quand vous changez ce procédé, eh bien, ce que vous avez envoyé dans le cours d'eau, en aval, et vous avez des stations de captage de l'eau qui sont censées pouvoir la potabiliser pour 100 000 habitants, et bien ça ne marche plus. Les charbons actifs qui sont dans l'usine de captage, ils ne marchent plus. Et donc, on va falloir choisir, d'ici la fin du siècle, entre avoir du courant et avoir de l'eau courante au robinet. Donc, effectivement, des problèmes de résilience au changement climatique et sur la question de l'eau en particulier, il y en a plein, et je pense qu'il y en a plein qu'on ne soupçonne pas encore.
Partager une réflexion sur la question de la centralisation des moyens de production énergétique. Là, je trouve que depuis 4-5 ans, il y a quand même un paramètre nouveau. On voit qu'il y a des centrales nucléaires qui se trouvent dans des zones de conflit, des installations dans les zones de guerre. On n'a pas trop vu jusqu'à présent. Il y a Zaporizhzhia, qui est la plus grosse centrale d'Europe, qui est utilisée comme arme de chantage. En Iran, là, il y a une centrale nucléaire aussi en Iran qui a commencé à être bombardée, enfin, de loin par les Américains, mais qui les a fait peur. Il y a des installations nucléaires en Israël qui sont aussi bombardées par l'Iran. Il y a une centrale nucléaire qui est, je crois que c'est à Abu Dhabi, à 60 km des côtes iraniennes. Et donc, la question de la centralisation, ça montre aussi déjà la vulnérabilité aux nouvelles armes, qui n'y avait pas avant. On se rappelle de la discussion de Greenpeace qui a réalisé la survolée de centrales nucléaires. Bon, bah, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus sophistiqué. Et puis, la question de l'hypercentralisation, je pense aussi le complexe gazier là, du Qatar a été arrêté depuis 2002. C'est un complexe qui est hyper centralisé depuis l'acheminement, la redirection, le traitement du gaz. C'est 30% de la production de GNL mondiale qui a été arrêtée en deux frappes de drone, le plus drone de 2 mètres. 30% de la production mondiale. Donc la remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a quand même un vrai enjeu à décentraliser, sans de jeu la production d'énergie. Et c'est ce que veut faire l'Ukraine. Ils se rendent bien compte que leur système énergétique est vulnérable parce qu'il était hyper centralisé. Ils essaient de développer des unités de production pour enfin, une petite unité pour être le résident.
Par rapport à ça, en France, on a eu une vingtaine de centres de dispatching qui sont très vulnérables. C'est absolument pas protégé. Hein. Les centrales nucléaires sont plus ou moins protégées. Il y a de la gendarmerie dans presque toutes les centrales nucléaires. Les centres de dispatching ne sont absolument pas protégés. Et donc, c'est un simple drone qui tombe dans les lignes, il peut complètement... bon, voilà, on est dans une société extrêmement fragile. Moi, j'avais une question à poser, c'est quand même par rapport au coût. Comment dire, la décision de financement des EPR 2, là, le 6, elle est soumise, enfin, le type de financement est soumis à la Commission européenne qui doit donner son avis d'ici la fin de l'année. Il y a eu un précédent avec la Hongrie parce qu'ils ont voulu construire une centrale en faisant aucun appel d'offres et en traitant directement avec Rosatom. Ça semble poser quand même quelques problèmes au niveau européen, distorsion de concurrence, etc. Donc là, quelles sont les interventions possibles pour faire pression sur la Commission européenne? Quelles sont les chances que ça fasse capoter le projet français? Enfin voilà, c'est une question que j'ai.
Alors, excellente question, parce qu'effectivement, c'est pas gagné. Il y a eu une brève qui est tombée cette semaine qui dit que la Commission européenne, sur un projet de financement d'une nouvelle centrale en Pologne, ils sont en train de regarder, ils vont peut-être dire oui, mais à certaines conditions. Et la condition, ce serait que le soutien public à la production de cette centrale nucléaire n'intervienne que quand on en a besoin, en plus de la production renouvelable, puisque en Pologne, il y a aussi des panneaux photovoltaïques, il y a des éoliennes. Et donc l'idée, c'est de donner la priorité aux énergies renouvelables et que, en l'occurrence, cette centrale nucléaire supplémentaire ne vienne qu'en appoint. Alors, c'est une double mauvaise nouvelle pour EDF. D'abord, parce qu'ils passent leur temps à geindre sur la fameuse modulation. Bah oui, mais avec les panneaux photovoltaïques que vous mettez partout, chaque jour, il y a la cloche solaire qui produit trop dans la journée. Nous, on est obligé de moduler à la baisse notre production. Ça ne nous arrange pas. Ça fait vieillir le matériel plus vite que prévu. Et puis, ça nous empêche de vendre notre électricité quand ça nous arrangerait. Et puis surtout, si c'est ce mécanisme qui est retenu pour la France... ça veut dire que ça ne va pas permettre à la France de financer autant qu'elle le souhaiterait la construction de ces centrales. Et donc on va vraiment jamais avoir l'argent nécessaire. Et le deuxième truc, c'est que la Commission européenne vient de lancer aussi une enquête qui sera peut-être une enquête approfondie. J'avoue que je ne maîtrise pas bien le vocabulaire européen, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'enquête approfondie, c'est que là aussi, ça sent un peu le roussi, justement sur le modèle de financement qui est proposé par la France. Et donc, il n'est pas certain que la Commission européenne autorise le soutien financier public de l'État à EDF, qui est en situation de monopole pour l'exploitation et la production nucléaire, mais en situation hégémonique aussi sur la fourniture. Et ça, la Commission européenne, monopole, il s'étrangle. Il faut du marché, il faut de la concurrence. Donc, voilà. Donc rien n'est gagné à l'heure où on parle. On sait que ça coûte un bras, on n'est pas certain qu'il va peut-être pas falloir mettre les deux, mais en plus, on ne sait pas si on va être autorisé à financer tout ça.
Si je peux minorer, la Commission européenne, d'un point de vue de marché et de libéralisation de tous les marchés, a toujours eu EDF dans le viseur. Et la France, on a vu la bataille qui s'est engagée sur notamment garder nos barrages hydroélectriques dans le giron public ou parapublic, c'était ça l'enjeu. Bon, nous, on aurait préféré une vraie reprise en main publique, mais bon, l'État a choisi un truc alambiqué, se basant sur des coûts de rétribution de l'hydroélectricité historique, en se basant quand même, en copiant un peu le modèle qu'on a utilisé quand on a libéralisé le marché sur comment EDF, du coup, doit contribuer avec l'amortissement des vieilles centrales dans le coût d'électricité. Bref, ça c'est extrêmement complexe. Mais moi, je suis pas très optimiste sur le rôle de l'Europe. D'une part, parce que la centrale en Hongrie, elle se fait quand même. En réalité, la France et Emmanuel Macron a entamé un tour de tous les États membres européens contre l'Allemagne qui sortait du nucléaire pour promouvoir le nucléaire. Et cette alliance du nucléaire, il n'est pas allé chercher juste l'Italie, il est aussi allé chercher des pays plutôt amis avec l'Allemagne, plutôt réticents sur les dérapages financiers et les déficits publics français et la parole qui n'est pas tenue, comme les Pays-Bas que je connais bien. Et en fait, il a réussi à créer cette alliance contre l'Allemagne sur l'énergie nucléaire, vendant sur un certain nombre d'éléments. Et de fait, cette alliance, elle est puissante. Il a réussi à faire rentrer progressivement. Enfin, je veux dire, nos ministres sur l'énergie, le climat ou l'environnement n'ont rien fait à la Commission européenne. Par contre, ils ont fait pour le nucléaire. Et c'est le seul domaine où on a vu, par exemple, on ne va plus parler d'énergie renouvelable d'un côté et du nucléaire de l'autre, on va la faire rentrer dans un vocable d'énergie décarbonée. Donc on voit qu'il y a, et de fait, du coup, bah, l'énergie nucléaire va pouvoir bénéficier pour l'idée de Macron est quand même de faire en sorte qu'on n'est pas obligé d'augmenter notre taux d'énergie renouvelable dans le pays, tel que recommandé par l'Union européenne et par les lois, le pacte vert que la France avait elle-même contribué à mettre en place. Parce que si on dit décarboner, du coup le nucléaire et l'énergie renouvelable rentrent dans un même paquet, et du coup bah, la France, d'un coup, a plus besoin de faire aucun développement des énergies renouvelables. C'est quand même ça le micmac qui réussissent au fur et à mesure à faire passer au niveau de la Commission européenne. Et moi j'avais travaillé, c'était sur un autre dossier totalement, mais sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes et notamment sur la commission juridique, puisqu'on avait porté un recours au niveau européen. Et en fait, ça contrevenait à plusieurs directives européennes, notamment sur le respect de la loi sur l'eau. On avait discuté, on avait avec ceux qui étaient en charge, on avait des députés européens aussi qui étaient très présents. Et en fait, ils nous disaient, c'est très compliqué parce que même si en droit, vous avez raison, ça va être très compliqué quand même pour l'Union européenne, vu l'état dans lequel se trouve l'Europe, d'avoir un pays membre fondateur qu'on va condamner sur son programme énergétique majeur, etc. Donc c'est important que ça se fasse et que ça puisse éveiller des soupçons, et y compris. Mais dans la réalité, moi je suis moins optimiste que toi, je suis assez pessimiste sur le rôle de l'Europe dans arriver à freiner le nucléaire. Mais c'est, voilà, grâce à l'alliance que Macron a formée aussi.
C'est vrai. Je l'ai présenté de manière trop optimiste sur le vous n'en veniez pas trop.
C'est toi qui as été très optimiste sur l'Europe et moi qui.
Elle s'en rend compte.
La question était posée de la démocratie par rapport au nucléaire, qui est un aspect des choses. Même si c'était la démocratie, était parfaite sur le sujet, je pense qu'on est dans le plus difficile. Parce que pour que la démocratie fonctionne, il faut commencer par de l'information.
Exactement.
Et au niveau des élites, des informations massives, et je crois qu'au niveau de la base, il faut aussi quand même. Par exemple, j'ai fait l'école d'ingénieur, je suis de famille de communistes, je disais le bas, j'ai été prolifère jusqu'à assez tardivement. J'ai mis dans mes mains un bouquin où j'ai participé à la tirade à propos de Radio Matouré. Et là, je me suis rendu compte qu'on m'avait largement menti aux informations, à France 2, France 3, par rapport au syndrome de la guerre du Golfe. Donc, un cas du syndrome de la guerre du Golfe, c'était un militaire qui avait transporté des munitions à l'uranium appauvri pendant tout son service là-bas. Il est rentré en métropole. Il est vraiment malade, il a perdu ses dents, il est mort. Donc, exposition massive à l'irradiation, comme les liquidateurs à Charles de la personne qui a intervenu sur France 2, je crois qu'il était sur médecin France 2, disait que le syndrome de la guerre du Golfe, c'était pas les syndromes de l'hétorie. Comme c'était de l'uranium appauvri qui était conservé, c'était pas non plus radioactif, donc c'était autre chose. Donc sa réponse en fait était, ce qu'il a dit, c'était n'importe quoi. C'est comme, et moi, malgré des études quand même, avec du cerveau physique, j'ai gobé tout ça. Il a fallu qu'on me mette dans les mains
Donc, militante, un bouquin où le Fédéral détaillait le Rallye en mal pourri, ce que c'était, ce que ça faisait, et même lors de sur place au niveau de du conflit, pour m'ouvrir les yeux. Donc, les gens qui ne s'intéressent pas trop à la pollution, qui ne sont pas trop militants, je pense que même, que c'est la plupart des gens d'ailleurs, je pense vraiment que c'est la plupart des gens. Donc là, la démocratie, même une démocratie parfaite, là, on a un gros souci en amont du haut de la formation.
Bah, d'où l'intérêt de diffuser ce genre de film, premièrement. De dire en même temps que, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être physicien, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour avoir un avis sur l'opportunité de relancer le nucléaire. Il suffit de savoir lire des rapports, il suffit de comprendre les chiffres. Voilà. Y a pas moi, je dis des fois, il n'y a pas besoin de savoir expliquer la formation des actinides mineurs dans le cœur du réacteur pour avoir un avis sur la filière. Les actinides mineurs, c'est les saloperies qui finissent dans les déchets nucléaires les plus radioactifs. Vous restez une minute à côté, à moins d'un mètre, dans les trois mains, vous êtes mort. Voilà, c'est ces trucs-là qu'on intéresse. Il n'y a pas besoin de savoir expliquer ça pour avoir un avis sur la filière. On a quand même des physiciens qui sont d'accord avec nous. Tout à l'heure, Julie a parlé de Bernard Laponche. Bernard Laponche, le type, il était physicien, il bossait pour le CEA pour fabriquer des réacteurs. Sauf qu'il se trouve qu'il a pris sa carte à la CFDT à l'époque. Il s'est intéressé à l'ensemble de la chaîne et pas seulement au croquis qu'il faisait sur sa table tous les jours. Et il s'est rendu compte que c'était une dinguerie et est devenu militant anti-nucléaire. Et juste ce dernier truc, malheureusement, vous pointez le fait que dans notre pays, il y a des experts et il y a même des médecins qui racontent n'importe quoi et qui participent à ce qu'on appelle la fabrique du doute. Je vous invite à regarder les travaux de Annie Tebouloudi. C'est une sociologue, une éminente sociologue qui a beaucoup travaillé sur le nucléaire. Moi, il y a un mois, j'ai organisé à l'Assemblée un colloque sur la sous-traitance du nucléaire qui est une catastrophe. Les sous-traitants, ils nous disent il y a quelqu'un derrière la prise. Et quelqu'un derrière la prise, c'est quelqu'un qui est extrêmement précaire et qu'on va envoyer faire les travaux les plus irradiants. Et aujourd'hui, la science dit que l'exposition répétée aux faibles doses, ce qui est un peu la même chose, j'ai pas creusé l'exemple que vous donniez du syndrome du Golfe, mais en fait c'est un peu la même chose. Quand vous êtes exposé de manière répétée aux faibles doses, eh bien, vous risquez de développer un cancer. Et en gros, ce qu'a montré, il y a une étude qui s'appelle InWorks, qui est une étude au long cours sur des travailleurs du nucléaire, plus de 300 000. Alors malheureusement que les travailleurs sous statut, pas les sous-traitants justement qui sont les plus exposés. Mais donc une étude au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France qui montre qu'il n'y a pas de seuil d'exposition en dessous duquel vous ne prenez aucun risque. Ça c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est que 20 fois 1 égale 20. C'est-à-dire que si vous êtes exposé 20 fois à une dose de 1 millisievert, c'est une des unités de mesure qu'on utilise. C'est comme si vous aviez pris une fois 20 millisieverts. Bon, j'ai pris 20 fois 1, j'aurais pu dire 400 fois 1 égale 1 fois 400, vous avez compris le raisonnement. Donc, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire le nucléaire, c'est quoi qu'il en coûte. C'est quoi qu'il en coûte d'un point de vue financier, mais en fait, c'est quoi qu'il en coûte aussi d'un point de vue humain. Il y a des gens, aujourd'hui, en France, et les sous-traitants du nucléaire, ils sont 120 000, ils sont beaucoup plus nombreux que les travailleurs sous statut d'EDF. En fait, ils en prennent plein la tronche des irradiations. Et quand ils veulent déclarer un accident du travail, une maladie professionnelle, eh ben, on les fout dehors, tout simplement.
Juste là, un motif de lueur d'espoir, il faut bien qu'on en ait. Parce qu'on est dans un pays où on a été abreuvé au nucléaire. Le nucléaire, c'est la fierté industrielle. Le nucléaire, maintenant, le lobby nucléaire se sert du réchauffement climatique pour encore légitimer la production et la relance de la filière. Je pense qu'il y a une chose assez basique, c'est quand vous allez interroger un enfant qui n'a pas encore été soumis à toute cette propagande, vous lui dites le nucléaire, pour toi, c'est bien ou c'est mal? Parce que souvent, moi, mes enfants, quand ils me disent, lui, il est gentil ou méchant. Quand on parle de politique, on simplifie. En fait, le nucléaire évoque quelque chose de dangereux. Parce qu'en fait, le nucléaire, c'est les bombes nucléaires. Et donc, il y a quand même la question des radiations, la question, et c'est d'ailleurs pour ça que les grands promoteurs comme Jean Covici nient complètement ce qui s'est passé à Tchernobyl. Il dit littéralement, c'est bon pour la biodiversité. C'est littéralement ce qu'il dit. Mais en fait, il y a vraiment des dingueries qui sont dites, qui sont factuellement fausses. Et je trouve quand même qu'on est dans un monde où toutes les dingueries, elles passent. Et on ne réinterroge plus, c'est compliqué de fact-checker. Je pense qu'à un moment donné, ce surlargage de choses va faire en sorte qu'on va se reposer les questions et essayer de se réinformer aussi de manière différente. Et je suis persuadée en tout cas que quand on parle de nucléaire, alors ça dépend quand votre papa, votre grand-père, etc. a travaillé pour EDF et a fait « il y a », mais je suis convaincue qu'on peut en parler de manière différente, et je le dis d'autant plus que moi je ne suis pas du tout ingénieure, j'étais très mauvaise en physique, j'étais très mauvaise en maths, mais j'estime qu'en tant que citoyen ou en tant que député ou politique, quand on voit ce que ça engage d'un point de vue financier, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal, sur la société qu'on dessine aussi, en fait on est légitime, on est toutes et tous légitimes pour interroger des choses, et ce qui, moi, me met le doute, c'est quand on interroge et on pose des questions et qu'on n'a pas de réponse. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas, qu'on n'est pas ingénieur, physicien, etc., qu'on n'est pas légitime pour poser cette question. Je le dis parce que je suis écologiste, je suis une femme et je ne suis pas ingénieur. Donc quand on travaille sur la question, souvent, nos interlocuteurs, ils essayent d'abord de saper la légitimité. J'ai discuté aussi avec des journalistes, surtout des journalistes femmes, qui, sur des médias plus moins de niche que reporter, disait, en fait, mon problème, c'est que, en fait, si je veux faire un sujet sur le nucléaire, on va interroger ça. Parce que, même sur des médias publics, des grands médias publics, on va être confronté à des questions de plus techniques, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a... Voilà, la difficulté, c'est d'arriver à dire tout le monde est légitime pour poser une question sur le nucléaire, parce qu'on vit dans une société, et démocratiquement, on devrait pouvoir le définir, quel modèle de société énergétique on vit. Et voilà, donc, il y a effectivement un problème général sur l'information, mais il ne faut pas perdre espoir, et je pense que ces soirées-là aussi, de bouche à oreille, de faire diffuser, de dire à vos amis, vos enfants, il y a ce documentaire, regardez-le. Et les livres qui sont diffusés aussi, moi, celui que je conseille quand les gens s'interrogent, c'est le livre d'Hervé Kempf, parce que je trouve qu'il résume de manière très, très simple, très court, sur tous les arguments. C'est vraiment celui que je recommande le plus. Si vous avez des cadeaux à offrir, par ailleurs, ça, c'est toujours un bon cadeau à offrir.
On en a un exemplaire sur la table de sortance. Bon.
Et le film là, vous avez bien fait de payer votre place ce soir, mais il est gratuit sur YouTube. Donc diffusez le lien. Il n'est pas gratuit.
Ouais. C'est pas gratuit.
Ok, ok. D'accord.
C'est jamais gratuit l'usage de langue.
Oui, oui.
Bonsoir.
Attendez, il y a quelqu'un qui pose, qui a le micro.
Mais c'est sur les éoliens terrestres. Il n'y a pas d'association de citoyens qui sont contre l'éolien terrestre. Et là, récemment, il y a eu un projet qui a été rétoqué par le Conseil d'État. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Je veux dire, pour sensibiliser le citoyen à créer une énergie renouvelable, justement, éolien terrestre.
Moi, en fait, je pense que c'est beaucoup d'idéologie. En fait, les gens, ils n'en veulent pas parce que c'est moche, mais la beauté des équipements industriels, c'est dans la tête. Et moi, c'est pas plus joli une centrale nucléaire, c'est pas plus joli les lignes à haute tension. Alors, on les a toujours connues quasiment. Moi, je les ai toujours connues. Donc, on s'interroge pas pour se demander si c'est beau ou si c'est moche dans nos champs. En vérité, si on était convaincu que c'est utile, je pense qu'on les regarderait tout simplement différemment. Donc, ça renvoie à la question de l'information et de la maîtrise des enjeux. Pour moi, il y a vraiment. Ça renvoie aussi à la question de la démocratie. Il faudrait organiser partout des micro-conventions citoyennes dans tous les patelins et dans tous les quartiers des grandes villes où, en gros, on se dirait le ou la citoyenne, consommateur, travailleur, on est au centre d'un carré où il y a quatre pôles. Il y a nos besoins qu'il faut peut-être réinterroger. Il y a les solutions technologiques. Il y a les solutions pas technologiques, prendre son vélo, faire du covoiturage, je ne sais pas quoi, et il y a les limites planétaires, parce qu'on met beaucoup le paquet sur le climat, et on a raison, mais en fait, les limites planétaires, il y en a 9, et je crois qu'on en a déjà éclaté 6 ou 7. Donc voilà. Et si en fait on faisait, si on prenait le temps, alors c'est sûr que c'est révolutionnaire, hein, c'est, bon, il faut peut-être plusieurs vies pour y arriver, mais en fait, si on prenait le temps collectivement de se demander de quoi on a besoin, comment on peut satisfaire ses besoins, ah oui, mais à quel, combien ça coûte, et puis est-ce que c'est vraiment possible en termes de matière et tout ça, bah, à la fin, je pense qu'on prendrait des décisions plus raisonnables, et on se dirait, bon, moi je trouve pas ça beau, hein, les éoliennes, mais je trouve pas ça moche, parce que juste me dit on en a besoin, quoi. Je peux pas vous dire autre chose. Après, si, le dernier truc, c'est les derniers, il y a eu un sondage qui a quelques semaines à peine, qui dit que je sais plus, mais c'est 70-75% des Français qui sont d'accord pour qu'il y ait plus de renouvelables, et ils sont encore plus nombreux quand ils ont des installations renouvelables à côté de chez eux. Donc, je dis pas que ça existe pas, ce que vous dites, parce que moi j'en ai rencontré, les collectifs, je sais que ça existe. Voilà les réponses que je peux vous faire, et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui s'étaient levées.
Parce que le Rassemblement National est...
Ah bah oui, je sais.
Ce que je veux dire.
Oui. Moi, je suis communiste.
Oui. Personne n'est parfait.
Oui. Je lis toujours l'humain, mais et je me suis battu quand j'étais jeune, il y a plus de 40 ans, contre le nucléaire. Et j'avoue que je suis en total désaccord avec la position du PSF actuellement. Et quand je vois ce film, ça ne peut que m'inciter à effectivement faire en sorte qu'il y ait un vrai débat qui s'ouvre au sein de parti par rapport à cette situation. Ma question, elle est... avec d'ici 2035, le tout électrique sur les voitures, et quelle incidence ça va avoir par rapport à la question qui a été posée dans le film, où il faut essayer de réduire au maximum. Vous voyez
très bien.
Donc, pour répondre à cette dernière question, parce que Maxime et moi, on a fait beaucoup de choses ensemble, et on est engagés dans un travail de prospective pour réécrire ce qu'on a demandé à ce que le Parlement soit associé à la réécriture, le retravail sur les scénarios de RTE, donc RTE qui est le grand gestionnaire du transport d'électricité, mais qui est aussi sur le compte de l'État, puisque dans le cadre de ses missions, elle doit savoir là où va y avoir la production d'électricité pour que le réseau soit équilibré, et là où il va y avoir des consommations de délestage, et donc tout ce système, il organise, mais ils ont besoin de prévoir et pouvoir effectuer aussi les investissements. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont fait des travaux prospectifs dont a parlé Maxime précédemment, et on est en train de les retravailler pour que, avant l'échéance de 2027, on ait un grand débat sur l'énergie pour le mettre au cœur, parce que tout le monde aura analysé les 6 scénarios de RTE qui pourront sortir. Dans ce cadre-là, on a des chiffres assez concrets sur 2050, comment on arrive à la neutralité carbone, et notamment l'impact sur le transport. En réalité, on a pas mal discuté sur notamment la mobilité, parce que la mobilité, en fait, on a un scénario sobriété, enfin, on a en gros
il y a trois
scénarios de consommation, et après, il y a différents scénarios de production, quelle production on est en face. En gros, le scénario sobriété, à l'extrême inverse, il y a le scénario au fil de l'eau, on continue et on régule rien du tout, et le scénario on réindustrialise. Et là, on expose tous les compteurs. L'avantage de cet exercice, c'est de démontrer que le scénario « on réindustrialise et on expose tous les compteurs » n'existe pas. Il n'existe pas. Il faudrait doubler le niveau pratiquement de production d'électricité en France. Ce n'est pas possible. Même avec 8 ou 6 EPR, ça n'existe pas. Donc ce scénario, de facto, on démontre qu'il n'existe pas. Ensuite, il y a au fil de l'eau, et le sobriété, et donc forcément on est intéressé plus par celui de la sobriété, et on voit que même dans le scénario sobriété, en fait les deux paramètres, il y a bien évidemment ce dont vous parlez, la question de la voiture individuelle, et le report modal vers les transports en commun, sur le CO2 et l'énergie dans le transport, et il y a bien sûr l'électrification du véhicule individuel qui joue un rôle, mais je n'ai plus exactement les chiffres de combien il faudrait, enfin, on est déjà complètement hors scope, je crois que c'est dans la SNBC, dans la stratégie nationale bas carbone, qui est évoqué que 1 sur 3 nouveaux véhicules devraient être des véhicules électriques en France, or on est extrêmement loin du compte, enfin, c'est dans cet ordre de grandeur là, et on n'est pas du tout dans dans cette ordre de grandeur-là. Les deux paramètres sur la sobriété qui jouent énormément, c'est le trafic aérien. Pourquoi le trafic aérien? Parce qu'en fait, là, il y a des normes qui ont été édictées, qui sont suivies par les industriels au niveau européen, qui obligent l'aviation, s'ils veulent continuer à fonctionner, à décarboner leur carburant. Et donc, ils travaillent sur des SAF qui sont extrêmement consommateurs d'électricité. Et donc, le trafic aérien, même si aujourd'hui on dit, et ce n'est pas vraiment le bon chiffre, que c'est que 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, de facto, avec l'introduction des SAF, en fait, c'est un curseur qui fait exploser le modèle énergétique. Ça, c'est une des choses, donc, de levier de sobriété pour rester dans un cadre physique normal et faisable. Et le deuxième, c'est la densité de personnes par logement. C'est les deux paramètres qui ont un impact majeur sur... c'est, en fait, en gros, c'est des choses qui paraissent un peu abstraites et théoriques, mais on doit être à 1,86 personnes par logement. Et il faudrait passer à 2,06 personnes par logement. Donc ça paraît assez abscond de cette manière. Et par ailleurs, c'est aussi très compliqué à faire passer au grand public. Parce que ça veut dire, vous allez perdre. La sobriété veut dire, vous allez habiter avec vos parents. Vous devez partager, vous devez continuer à cohabiter alors que vous êtes séparés de votre conjoint. Enfin, il y a un certain nombre où vous devez habiter beaucoup plus petit, avoir moins de mètres carrés. Et donc, c'est des paramètres sur lesquels il y a un travail de pédagogie aussi en cours. Mais pour répondre à peu près sur la question des transports, il n'y a pas. Le sujet aujourd'hui, il est surtout que les politiques de décarbonation, elles ne sont pas mises en œuvre au niveau de l'État. Et donc, on l'a vu un peu sur la crise énergétique, mais les modèles prospectifs de RTE donnaient une tendance haussière à la consommation d'électricité. C'est logique. Si on décarbone, on va passer des fossiles à des usages d'électricité. En fait, ça, c'est pas au rendez-vous. Et donc, aujourd'hui, c'est utilisé comme un argument par l'industrie nucléaire pour définitivement mettre un coup d'arrêt aux énergies renouvelables. Il y a une décrédibilisation de l'éolien, et on l'a vu, c'est le moyen de production d'énergie renouvelable le moins cher et qui produit par unité le plus d'électricité. Et donc le deuxième, qui avait moins de résistance auprès de la population, parce que franchement, un panneau photovoltaïque qui peut être contre un panneau photovoltaïque, en fait, on est en train de la tuer à travers la PPE. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'était un moratoire qui était prévu. Aujourd'hui, c'est plus un moratoire, mais c'est quand même un ralentissement de la croissance de la filière, et surtout pour les PME et TPE partout qui vont après la bulle solaire qu'on a eue il y a déjà une dizaine d'années, vont pas voir se relever une deuxième fois. C'est ce qu'on dit aussi. Et donc, on tue les filières des énergies renouvelables sur notre sol, pour dire qu'il n'y a finalement plus que le nucléaire qui peut fonctionner en France.
Bonsoir, merci pour votre présence. Je vais revenir sur le problème de façon globale et énergétique. Il y a des conflits dans le monde, comment est-ce que ça fonctionne, c'est grâce à l'énergie. Le problème avec le renouvelable également, c'est que ça ne va pas se substituer aux énergies fossiles, ça s'additionne. Donc c'est un problème en plus, finalement, qu'il faut gérer. Pour moi, même si le problème n'est pas forcément bon, la solution serait de décroître. J'aimerais savoir comment, justement, dans vos partis, cette notion de décroissance à la fois énergétique et économique, elle est prise en compte, justement, pour les effets du réchauffement climatique à terme s'atténuent et, au contraire, ne s'aggravent pas plus que ce qui est actuellement le cas avec la politique menée notamment par le gouvernement français.
Oui, vraiment. Merci pour la question. Ça va me permettre de compléter ce que disait Julie. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, le mix énergétique, et pas seulement électrique, français, c'est 60% d'énergie fossile. Donc, de toute façon, il n'y a aucun scénario qui soit renouvelable plus ou nucléaire plus qui peut remplacer ces 60% de consommation d'énergie fossile. Ça veut dire que le premier impératif, c'est la réduction de notre consommation globale d'énergie.
Donc sobriété. Alors c'est vrai qu'on dit plus facilement sobriété que décroissance parce que décroissance c'est devenu un mot tabou. Moi ça m'enquiquine parce que moi j'ai pas de difficulté avec ça, y compris avec ce que ça emporte en termes de changement de mode de vie. Mais je vois bien que pour l'instant ça effraie, c'est tout de suite caricaturé en retour à la bougie. Donc sobriété. Efficacité énergétique parce que quand vous isolez un logement, bah, évidemment il consomme moins, etc. Y compris. Non seulement ils consomment moins, mais vous êtes moins malade l'hiver quand il fait froid, l'été quand il fait chaud, donc il y a moins de dépenses de santé. Donc, en fait, c'est bénéfice, même sur le plan financier, pour la collectivité. Sobriété, efficacité. Il faut électrifier tout ce qui va rester comme consommation. Ça me permet de répondre à la question de la bagnole, c'est-à-dire, oui, il faut faire du transport en commun, oui, il faut développer les mobilités d'ours, mais j'imagine que par ici, dès qu'on sort du Mans, on a compris qu'on a besoin de sa voiture. Donc, pour moi, le triptyque sur la voiture, c'est... Il en faut moins, d'où l'intérêt de développer le transport en commun, tout ça. Il faut qu'elles soient plus petites, les bagnoles, mais à la fin, il faut qu'elles soient toutes électriques, puisque à l'horizon 2050, bah, si on ne veut plus qu'il y ait de fossiles, il faut bien qu'elles roulent quand même d'une façon ou d'une autre. Et donc, en face, sobriété, efficacité, électrification, et comment on fabrique l'électricité, et ben avec, pour nous, avec les renouvelables, et non pas avec le nucléaire.
Et peut-être pour compléter, pour montrer qu'entre la France insoumise et les écologistes, sur ce sujet-là, il n'y a pas beaucoup de différences. C'est pour ça qu'avec Maxime, on se retrouve sur les mêmes sujets. On n'en trouve pas énormément. Ouais. Mais après, il y a des nuances entre nous, hein, dans nos groupes politiques, etc. Mais forcément, qu'on a parlé des limites planétaires, on n'est pas dans l'illusion de faire croître. On voit bien qu'on est au bout d'un système. On parle là d'énergie. Et on fait miroiter qu'on va pouvoir continuer à produire plus d'énergie. Mais plus d'énergie pour faire quoi? Sur quels besoins on se concentre? Et donc, effectivement, la transition énergétique pour la faire passer. Voilà. Moi, le terme décroissance, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui pèsent le moins en termes de consommation énergétique et sur le climat, ce sont ceux qui ont le moins. Et ceux qui ont le moins, en fait, le terme décroissance, c'est très compliqué. Et donc, pour moi, il y a un sujet de, oui, le modèle qu'on appelle, nous, d'un point de vue intellectuel, de décroissance, on le voit bien et on s'inscrit dans ce modèle-là. Mais par contre, dans comment on le rend vraiment populaire ou public, je trouve ça compliqué. Et je n'ai pas encore vu d'hommes ou de femmes politiques ou d'écrivains qui ont réussi à démontrer ce que voulait dire le mot décroissance dans la réalité. Voilà, c'est aller faire du porte-à-porte dans un logement social où il ne se chauffe plus et parler de décroissance, on paraît quand même extrêmement décalé.
Pour compléter, il y a eu des personnes dans les propos qui, évidemment, il y a spécialement dans l'empreinte carbone.
Oui.
Il y a aussi la décroissance, c'est la notion justement de redistribution des richesses. On voit bien en France, c'est marqué une poignée de milliardaires qui s'accaparent les sommes faramineuses. Et ces milliardaires en question qui, justement, ont une empreinte carbone qui est en faramineuse. Voilà, c'est-à-dire comment finalement on arrive à il y a une valeur aujourd'hui qui est produite qui est énorme, qui pourrait satisfaire une bonne partie de la population, qu'on pourrait réduire également. La question c'est par quel levier on peut justement contraindre ces personnes qui ont énormément d'argent, de moyens, de, une bonne fois pour toutes, les ramener vers le peuple, pour justement avoir des notions d'égalité, de qualité de vie pour tous. Et aussi au niveau démocratique, parce que c'est joué aussi.
Ben, il faut voter des budgets dans lesquels on taxe les ultra-riches, et quand c'est pas dans le budget, ben, faut voter la motion de censure. Ça, c'est la première réponse. Et sinon, non, mais c'est intéressant parce que ça permet de parler dans la fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie là, qui a été imposée. Le réseau Action Climat, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui produit toujours des analyses hyper intéressantes, ils disent... Eh ben, l'objectif qui est dans la PPE en termes de réduction des énergies fossiles, il est très ambitieux. Donc, d'abord, ils commencent par applaudir. Et puis après, ils disent, sauf qu'il est à peu près inatteignable, d'abord parce que coup de frein sur les renouvelables, Donc on ne voit pas comment on va produire suffisamment d'électricité dans les 15 ans qui viennent pour réussir à sortir des fossiles. Et deuxièmement, le pari, il est uniquement sur les gestes individuels. Et donc, en fait, et ça veut dire quoi, le geste individuel? Et ben, ça veut dire parier, comme en 2022, que les plus pauvres et les modestes, bah, comme les factures vont exploser, ils vont réduire le chauffage. Et c'est tout. Et donc, c'est uniquement vu sous ce prisme-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je ne suis pas contre le geste individuel. C'est le changement, la transition, la bifurcation, vous appelez ça comme vous voulez, c'est aussi une somme de gestes individuels, et ça se passe aussi dans la tête et dans les pratiques quotidiennes. Mais ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant d'abord. En tant que responsable politique, il faut parler de planification. Et donc, il faut aller prendre l'argent là où il y est. Et même, il faut empêcher les riches de s'enrichir. En fait, aujourd'hui, les riches, ils bouffent la laine sur dos. Enfin, il faut vraiment le dire. Ils crament la planète par les deux loups. Alors, il y a un chiffre qu'on a peut-être tous en tête, c'est notamment dans les rapports d'Oxfam, pour mettre un chiffre sur ce que tu as dit tout à l'heure. En gros, les 10% les plus riches, c'est 50% des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Réciproquement, les 50% les plus modestes, c'est 10% des consommations d'énergie et des émissions. Bon, alors attention, parce que quand même, ça, on va se le dire entre nous, c'est à l'échelle mondiale. Et la France... Au niveau mondial, c'est la 7e puissance économique. Donc en vérité, dans la salle, si ça se trouve, on est assez nombreux, peut-être pas à faire partie des 10% les plus riches, mais à pas être dans les 50% les plus modestes. Donc, malgré tout, la philosophie, c'est celle-là, c'est tout le monde, sans doute, va faire des efforts, mais il y en a qui doivent en faire beaucoup plus, et il faut les forcer, parce qu'ils ne vont pas le faire tout seuls. Voilà. Mais bon, ça, tant que c'est les macronistes, c'est-à-dire la droite, en fait, qui dirige le pays, ça va pas changer.
De finir sur une décroissance, effectivement, comme vous le disiez, mais j'avais deux questions à poser, moi. Ce que vous pensiez de l'hydrogène au niveau des transports, et puis une deuxième question, quel est le rapport entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire?
Je veux bien faire l'hydrogène. Bon, l'hydrogène, c'est pas gagné, on est tous en train de... Enfin, moi, j'ai jamais été un grand turiféraire de l'hydrogène, mais bon, je regardais comme ça. La vérité, c'est que l'année dernière, à l'OPEX, il y a eu un rapport de l'Académie des sciences qui disait que c'était quand même pas gagné pour plein de raisons. Des raisons technologiques, parce qu'en fait, pour produire de l'hydrogène à partir de l'électricité, bah, déjà, il faut beaucoup d'électricité. Faut des électrolyseurs, ça paraît facile, hein. Je pense qu'on a tout fait, on a tous fait l'expérience en cinquième avec l'anode, la cathode, machin. Bon, en vérité, c'est pas si facile que ça de faire tourner un électrolyseur, enfin, les études... Non, mais je vais quand même aller au bout, mais j'imagine que vous avez peut-être un point de vue différent sur l'hydrogène. Mais...
On a un problème d'adéquation entre la production et la consommation. L'hydrogène, c'est un système de stockage, l'électrolyse permet de transformer l'électricité en un combustible.
Oui, oui, oui. Non, non, mais sur le papier, ça marche. Pardon ?
Dans l'est de la France, là, ils n'ont pas découvert.
Alors, si, alors vous avez. Alors, voilà, vous avez plein de sortes d'hydrogène. Alors, mais le truc, alors, moi, je me souviens d'une conférence où il faut savoir que l'hydrogène, aujourd'hui, ça sert beaucoup. Alors, c'est produit à 95% à partir d'énergie fossile. En fait, c'est un sous-produit du raffinage, du pétrole, etc. Et en fait, ça... Combien ?
C'est un composant du raffinage.
C'est un composant du raffinage, j'ai dit une bêtise. Bref, ça sert, par exemple, dans les engrais. Donc, en fait, et ça sert dans l'industrie, ça sert dans la chimie, etc. Rien que pour... remplacer l'hydrogène, alors je ne sais plus, il est noir, celui-là, il est brun,
il y a le bleu, le vert.
Oui, voilà, mais celui qui est dégueulasse, qui est fait dans la filière des hydrocarbures, en fait, il est déjà très, très utilisé dans l'industrie, et donc, sans même parler de produire de l'hydrogène vert ou turquoise, je sais plus, il est turquoise ou vert, bon bref, pour mettre dans des nouveaux usages de l'hydrogène, par exemple, dans la mobilité. Donc rien que pour remplacer tout ce qui est à l'heure actuelle utilisé dans la chimie, il faudrait doubler au moins le parc nucléaire mondial ou je ne sais plus en éolienne combien ça fait, mais en fait rien que pour remplacer l'hydrogène existant, ce serait une dinguerie. Alors après, si on voulait en plus en produire pour de nouveaux usages type mobilité, bon, je ne vous fais pas un dessin, et par ailleurs, on constate que, par exemple, dans le transport lourd, parce que pendant un moment, on se disait, bah, peut-être que, alors pas pour des bagnoles, parce que bon, le rapport coût, etc. Hein ? Eh bien, moi, je n'ai pas vu, mais en fait, c'est assez révélateur la discussion qu'on a là du fait que pour l'instant, c'est un truc qui n'est pas du tout mature, qui coûte très cher et qu'on ne sait pas trop faire. Quoi. Ça.
Et
Et donc même dans la mobilité lourde, pour l'instant, les gros transporteurs, ils se disent qu'ils vont plutôt faire des camions avec des grosses batteries électriques. C'est ce qui leur paraît le plus rentable. Je ne sais pas si c'est la panacée, mais on est plutôt là-dessus.
Et c'est une arme pour les thermopompes.
Et sans doute. Puis ça pose plein de problèmes de stockage. En fait, c'est la molécule la plus légère de l'univers. Donc en fait, ça ne peut pas forcément passer dans les mêmes tuyaux que le gaz qu'on avait jusque-là. Donc si ça veut dire faire des nouveaux réseaux complets, bon. Après, c'est vrai qu'il y a un gisement dans l'Est. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet avec les promoteurs du projet. À cette étape, j'en pense rien de spécial. Mais encore une fois, ça ne fera jamais le compte si on ne fait pas la sobriété quand même. Il faut se méfier des trucs comme ça. Les mecs qui changent le plomb en or, moi je me méfie.
Les alternateurs des centrales nucléaires consomment beaucoup d'hydrogène.
Sans doute. Je te crois sur parole.
Alors, la deuxième question, on n'est pas, et je pense que Maxime peut faire répondre de manière très transparente et honnête, sur le lien civil, nucléaire civil et militaire. Nous, on a travaillé surtout sur le civil.
Ouais.
Et donc, il y a un lien évident entre le développement, enfin, tout le monde le sait, donc on ne va pas rappeler ou enfoncer les portes ouvertes, entre le nucléaire militaire et le développement du nucléaire civil. Mais voilà, on n'a pas, au-delà des événements qui font qu'on voit ce qu'on pouvait dire avant, que le nucléaire civil et notamment les installations nucléaires dans un monde qui change, un ordre mondial qui est bousculé, deviennent des positions de vulnérabilité. Pour autant, nous, on n'a pas travaillé spécifiquement sur le nucléaire militaire. Donc, moi, je suis incapable de vous répondre sur cette question.
Je voulais juste demander si le nucléaire militaire avait besoin du nucléaire civil.
La centrale civile de Civaux va servir à produire du tritium pour les bombes thermonucléaires.
Oui.
Les bombes thermonucléaires, tous les 7 ans, il faut changer le tritium parce qu'ils perdent sa efficacité. Les bombes perdent leur efficacité. Et donc, il faut avoir une production de tritium. Et à Valduc, la production de tritium de Valduc, les réacteurs qui servaient pour ça ne vont plus être opérationnels. Donc, voilà, c'est tout simplement, on va utiliser les réacteurs de Civaux pour produire du tritium.
Et c'est sûr, juste deux éléments. Par exemple, à Lague, on a vu qu'on voulait construire des nouvelles piscines, une nouvelle usine de retraitement, etc. En fait, on n'est pas obligé de retraiter le combustible usé une fois qu'il sort des centrales. Et pourquoi on l'a fait historiquement en France ? Une des raisons majeures, c'est qu'il fallait qu'on retirait du plutonium. D'ailleurs, les unités là-bas, elles s'appellent UP1, UP2, ça veut dire unité d'extraction du plutonium, et c'était pour fabriquer des bombes. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on veut refaire une nouvelle usine de retraitement, et c'est pas uniquement pour des raisons de filière et de cycle, mais des grosses guillemets, parce que pour moi c'est pas un cycle, mais du nucléaire civil. Et juste le deuxième élément, il y a une journaliste avec laquelle je travaille assez souvent, qui me dit, qui s'est interrogée, mais pourquoi Macron, il a viré sa QT en 2022 ? Parce qu'il a pris le pouvoir en 2017, la PPE2 de l'époque, elle disait « on ferme 14 centrales ». Et d'ailleurs, en vérité, je crois que c'est une fois qu'il a été élu, lui, même si la décision elle a été prise par Hollande, c'est sous Macron que Fessenheim est fermé.
Oui.
Et 2022, discours de Belfort, on en a vu des extraits, c'est parti comme en 40. Quoi. Et en fait, l'hypothèse de cette journaliste, c'est que les gens qui l'ont murmuré à l'oreille, il y avait peut-être la dimension militaire derrière. Je ne peux pas vous en dire plus, elle n'a pas su étayer davantage non plus, mais c'est quelqu'un qui rencontre plein de gens dans le domaine. Bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus.
Un petit complément au sujet du nucléaire militaire. Il est tout à fait clair que les premières centrales nucléaires françaises, graphite gaz, 3 centrales à Chinon, 2 à Saint-Laurent, 1 à Bugey, ont été fabriquées pour faire un peu d'électricité quand même, mais aussi surtout pour faire les bombes. Et ceci s'est traduit tout simplement par le fait que le combustible était piloté par le CEA. Et le CEA sortait le combustible des cœurs de réacteurs, non pas quand le combustible avait fourni toute son énergie, mais quand il était au top pour fournir le plus de plutonium. Et j'ai connu un adjoint de chef de centrale qui, découvrant ça, s'est dit « mais c'est pas possible ». Il a été mis sur la touche. Bien, moi j'ai une question aussi concernant, donc 6 centrales, un projet de 6 réacteurs, plus 8, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous savez si dans la tête de nos dirigeants, Macron en tête, il y a derrière, sans qu'ils le disent, le fait d'alimenter les data centers et bientôt l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ne le disent pas, cette relation.
Plug, baby, plug.
Comment ?
Plug, baby, plug. Macron, il a dit ça dans un discours il y a un an, un truc comme ça. C'était en réponse à Trump qui avait dit « drill, baby, drill ». On va forer comme les...
Oui, alors
vous finissez la phrase comme vous voulez. Oui. Et donc lui, il a dit « plug, baby, plug ». Donc on va faire des centrales pour que vous puissiez mettre des data centers pour développer l'IA. C'est clair.
D'accord. Ok. Alors, juste une... Moi, j'ai entendu sur France Culture, il y a quelques mois, qu'est-ce qu'il y a dans les data centers au niveau mondial ? 30% c'est de la pornographie, 30% c'est de la publicité,
c'est super utile,
et 30% pour le reste.
Non, mais ça interroge la question des besoins. Juste sur les 6 plus 8, deux remarques. D'abord, plus 8... Vous avez remarqué, moi, depuis que je travaille dessus, depuis 4 ans, les plus 8, ils sont toujours en option. Alors là, on vient d'imposer une PPE, ils sont toujours en option. Moi, je pense que ça prouve que même la filière, elle n'y croit pas beaucoup. J'avais auditionné Jean-Bernard Lévy, qui était le PDG d'EDF, encore fin 2022. Il y avait déjà cette histoire de 6 plus 8. Je lui avais dit, bon, bah, alors vous en pensez quoi? Il m'avait répondu, oh là là, mais moi, j'ai signé pour 6, hein, les 8 de plus, on verra bien. Donc je pense qu'il n'y croit pas beaucoup, pour des raisons économiques, pour des raisons technologique, c'est qu'à l'heure où on parle, à un moment, c'est dit, il y a Ursat, là, Xavier Ursat, qui dit bah, c'est bon, le design est prêt. C'est pas vrai. Le design, c'est en deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le basic design, et après, il y a le design détaillé. Le design détaillé, il n'est pas terminé. Et on voit un monsieur de la DIN, à la Direction interministérielle au niveau nucléaire, je les ai auditionnés aussi dans le cadre d'un rapport, il m'avait dit, ah, c'est vrai que l'EPR à Flamanville, on a un peu déconné, on a démarré les travaux, on avait 10% des plans. Vous inquiétez pas, cette fois-ci, on démarrera quand on aura 70%. Donc lui, il pensait me rassurer. Moi, j'ai dit, bah, en fait, il en manque 30% encore. Quand même. Donc, en vérité, le PR2, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y croit. Et d'ailleurs, dans la filière et même dans le monde politique, en particulier du côté du Rassemblement National, ils sont déjà en train de regarder ou du côté des Américains avec Westinghouse, qui est un modèle qui s'appelle AP1000, ou du côté des Coréens. Et les plus 8, à mon avis, ce ne sera jamais plus 8 EPR2, ce sera, s'il y en a, s'il y a plus 8 ou plus je ne sais pas combien, ce sera une autre technologie parce qu'on aura un nouveau fiasco de EPR2 comme on a fait sur l'EPR. Et l'autre remarque, c'est que vous avez dit ça fait beaucoup. Ben en fait non, ça ne fait pas tant que ça. Et moi dans les arguments, je dis c'est aussi trop peu. Parce que pour l'instant, il y a 56 réacteurs en fonctionnement, je mets Flamanville de côté. Ils auront, en 2045, s'il y avait les 2045, c'est à peu près la date à laquelle seraient mis en fonctionnement les 6 EPR2. En 2045, sur les 56 réacteurs actuellement en fonctionnement, il y en aura 44 qui auront 57 ans. Pourquoi je prends 57 ans? Parce que c'est l'âge du plus vieux réacteur dans le monde. Il y en a qu'un, il est en Suisse, il a 57 ans, il a été mis en service en 69. Donc le retour d'expérience qu'on a sur le nucléaire civil à l'échelle internationale, c'est un réacteur qui a à l'heure actuelle 57 balais. En 2045, on aura 44 réacteurs qui auront cet âge-là. Eh bien, qu'on le veuille ou non, moi je pense que l'autorité de sûreté nucléaire, avec tout le mal qu'on en pense depuis la fusion, elle aura dit on en aura arrêté un paquet. Donc si on n'en a fait que 6, et même si on en fait 8 de plus, moi je vous fiche mon billet, je mets ma main à couper qu'en 2050, le niveau de production nucléaire en France, il sera inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. C'est obligé.
Il y a des premières réunions pour au niveau de l'ASN pour étudier la prolongation au-dessus de 60 ans. C'est, il y en a une, dans, je ne sais plus, vers le 15 avril. C'est dans les tuyaux.
Sur la question du lien avec le lobby militaire et le lobby nucléaire, il y a en ce moment dans la région un grand gain avec des forts acteurs qui sont ceux qui construisent les chaudières des sous-marins nucléaires et des portables en nucléaire au sud de Nantes. Et à l'école centrale de Nantes, ils en emploient certains, et M. Jancovici aussi. Et ce lobby, moi j'étais ce matin sur la décarbonation de l'espère, on voit bien qu'ils sont tous convaincus qu'ils auront à la place de Cordemais une centrale nucléaire de nouvelle génération. Ils en rêvent tous.
Un SMR, un petit.
Oui,
un
SMR. Oui.
Ouais.
En fait, il y avait Ali Arthé-Jules Verne, c'est sur masse construction. Il travaillait sur un projet qui s'appelle, et on l'avait déniché avec Jean-Christophe aussi à la région, puisqu'il y avait des financements de la région, donc des financements publics, qui allaient vers un programme qui n'était bien sûr pas mis en avant, qui s'appelait FlexBlue, qui était un projet qui voulait vendre à des pays sous-développés, notamment en Inde, qui était donc en voie de développement, des mini-centrales nucléaires qui étaient immergées devant les côtes. Et c'est ça qui s'était. Et c'est vrai qu'on a eu la visite présidentielle la semaine dernière dans l'entretour des municipales pour promouvoir à Indre les nouveaux outils et porte-avions de défense. Un certain nombre de députés ont choisi de ne pas aller faire l'appel républicain en ce cadre-là.
Il y a un appel à mobilisation le 8 mai contre la construction du nouveau porte-avions à Saint-Nazaire.
Et les emplois, monsieur.
Il va falloir du service d'ordre, les gars.
Bon, voilà, on a déjà bien papoté. Il est 10h30, presque. Merci à vous.